d'emploi. Mode d'emploi.
L'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et aujourd'hui, ce soir, vendredi 13 novembre, même si l'enregistrement a eu lieu il y a deux jours, vous écoutez Mode d'emploi pour aujourd'hui pour inviter Pauline Clèche, docteur en sociologie, qui va nous parler des événements récents au Chili et en particulier du référendum qui va changer la constitution de tout un pays. Mais bien entendu, il y a aussi des actualités et parfois plus francophones ou françaises avec les nouvelles, les chroniques d'actualité de Jean-Marc. Alors, première chronique, évidemment. Merci Donald.
Eh oui, merci Donald. Grâce à toi, mon cher Donald, et à tes conneries en pleine élection, nous nous sommes tapés, une fois de plus, une semaine médiatique de merde, avec des milliers d'envoyés spéciaux qui n'avaient rien à dire, mais qui ont tout de même occupé les ondes pendant des centaines d'heures pour dire justement qu'ils n'avaient rien à dire. Un peu comme toi sur Twitter. Merci Donald pour ton mandat unique et unique en son genre. Au moins ça changeait, les fraudes fiscales, la fabrique industrielle de mensonges quotidiens, plus délirants les uns que les autres, ta lune de miel avec Kim Jong-un, les révélations de tes poufs. Non, je ne parle pas de tes légitimes successives qui ne t'ont épousé que pour ta beauté et ton intelligence. Bref, une grande présidence d'un grand président. America is really great again après toi. Enfin, merci Donald, car je crois que nous n'en avons pas fini avec toi, à moins que tu ne nous joues le gâteux comme notre chichi national, tu risques de finir devant les tribunaux pour quelques malversations majeures. Et comme la justice US est moins lente que la justice française, ça peut être chaud pour toi. Mais l'essentiel pour un crétin de ton espèce n'est-il pas de rester sous les feux de la rampe, quel qu'en soit le prix ?
Alors le prix, c'est aussi le prix de la loi, bien sûr, Duralex, celle qui va peut-être bientôt empêcher de filmer les policiers. Car pour vivre heureux, vivons cachés.
Oui, alors, aussi grave que Trump, mais beaucoup moins drôle, c'est la nouvelle loi prévue par La République En Marche qui, sous la pression de la droite et de l'extrême droite, permettrait donc d'interdire de filmer les policiers en action, sous le prétexte de les protéger. Il serait en effet interdit de filmer des policiers et ensuite de diffuser ces images, autant dire créer une impunité totale pour la police. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, et bien qu'ils aient été filmés, les policiers ne se sont guère privés de gazer pour rien, de tabasser, d'arrêter et de déférer des milliers de personnes pour pas grand-chose. Dans un certain nombre de cas, la présence des caméras ou de téléphones filmants ont servi de modérateur aux ardeurs de la marée chaussée. Que serait-il advenu sans cela ? Dans un certain nombre de cas, de mise en cause ont pu se défendre ou attaquer la police grâce à des images. Combien de dénis de justice à venir sans les dites images ? Ce projet va encore plus loin, car il interdirait non seulement aux citoyens de filmer, mais pourrait être utilisé pour empêcher les journalistes de faire leur travail et de témoigner d'éventuels débordements policiers. Ainsi, ce gouvernement veut profiter de l'obnubilation Covid pour faire passer l'un des textes les plus rétrogrades et liberticides ayant jamais existé, qui revient à donner une impunité totale aux forces de police, à réduire la liberté d'expression et d'information et à assurer une capacité de répression intégrale et sans limite au pouvoir en place. Pétain n'aurait pas fait mieux.
Alors, il n'y a pas que des événements gays ou à rire ou à venir, il y a aussi des événements tristes et passés, et de l'assassinat de Samuel Paty. Et la question que tu nous poses, Jean-Marc, c'est de quoi Samuel Paty est-il le symptôme ?
Alors, Samuel Paty est mort d'une façon ignoble, et en plus, sa mort aurait pu être évitée. Samuel Paty, comme tant d'autres avant lui, a fait son travail, un travail souvent délicat, ingrat, un travail de funambule, entre une société qui se délite et une hiérarchie volontairement sourde et aveugle. Samuel Paty est mort de 30 ans de pas de vague, pas de vague, unique credo de la hiérarchie d'autruche de l'éducation nationale, qui préfère ignorer, parfois même suspecter ses enseignants, que de voir la réalité. Une réalité que pourtant ils connaissent parfaitement. Blanquer lui-même a été recteur de Créteil il y a 20 ans. Des dépressions, des suicides, des démissions et maintenant des exécutions n'ont toujours pas fait comprendre à nos dirigeants, amoureux de leur image et de leur discours, la réalité crue à laquelle nous sommes confrontés. Tous les assassins des dernières années, qu'il s'agisse de Charlie, de l'Hypercacher, du Bataclan ou de Nice, sont des hommes jeunes qui, pour la plupart, sont passés sur les bancs de l'école de la République et pourtant, ils ont fait ce qu'ils ont fait, sans pitié et sans morale. Pourquoi et comment cela est-il possible ? Peut-être parce que l'éducation nationale a failli par manque de moyens, par manque de volonté, par manque de fermeté. Peut-être parce que les services d'aide sociale sont débordés et impuissants par manque de volonté et de moyens politiques. Peut-être parce que les services d'assistance psychologique et psychiatrique sont débordés, faute de moyens. Peut-être parce que l'urbanisme d'urgence des années 60-70 a échoué et s'est transformé en machine à marginaliser, à ghettoiser des populations de plus en plus précaires. Peut-être parce que les politiques dites d'austérité ont vidé les quartiers entiers de tout service public, en dehors des écoles, sous prétexte d'économie. Peut-être parce que les inégalités gangrènent notre société. Peut-être parce que nos prisons sont indignes et que s'y entassent trop d'hommes, trop peu instruits, trop souvent fragiles psychologiquement, dans la pire des promiscuités. Peut-être parce que le nombre de politiciens nationaux ou locaux ont préféré acheter la paix sociale par des subsides distribués à n'importe qui sans contrôle. Peut-être parce que ces mêmes politiciens ont préféré vendre des armes ou acheter du pétrole à d'infâmes dictateurs, promoteurs et financeurs des pires intégrismes et des pires terrorismes. Peut-être parce que nos politiciens, la gauche puis la droite, ont joué avec le Front National pour se faire élire et développer par là même une atmosphère nauséabonde depuis 4 décennies. Bref, Samuel Paty est mort de tout cela, de ce mélange de lâcheté, de calculs infâmes, d'erreurs, de mépris des pauvres, des femmes, des fonctionnaires qui font le miel des élites aveugles depuis des décennies. Samuel Paty est mort horriblement, sauvagement, et ce ne sont pas une légion d'honneur et des palmes qui changeront quoi que ce soit. Samuel Paty est mort pour rien, et l'on voudrait en haut lieu qu'un discours national, que des prises de parole locales changent tout, réparent tout. Ces mêmes gens qui méprisent les enseignants et les vilipendent, les prennent-ils tout d'un coup pour des magiciens ? Samuel Paty a été massacré et nos politiques jouent encore au trompe-l'œil d'un illusoire tout sécuritaire qui n'a jamais fonctionné en attendant de se remettre à ne rien faire. Samuel Paty est mort, mais le ministère décide, reculade supplémentaire, de ne pas donner 2 heures aux enseignants pour préparer cette sortie rentrée et dynamite l'hommage qu'il avait lui-même fixé. Samuel Paty, coupé en deux par la bêtise et la haine, sera mort totalement pour rien si nous ne parvenons pas à faire changer ce système inerte et imbécile.
Et c'est un enseignant d'histoire dans Seine-Saint-Denis qui prenait la parole là et qui va continuer avec un sujet peut-être un peu plus gai, en tout cas au titre plus gai, confiture, confidois et confinement.
Alors Olivier Véran et tous ses pareils n'arrêtent pas de nous le dire, le Covid-19 c'est une épidémie de la mort qui tue, c'est le cas de le dire, et à grands coups de masques et de restrictions des libertés, on nous promet de juguler cette peste noire qui serait en train de décimer le monde de 2020. Peut-être peut-on voir dans cette épidémie plutôt un accident sanitaire qui n'est pas si grave que cela au regard des 140 000 morts des maladies cardiovasculaires ou des 48 000 morts annuelles de la pollution. Mais surtout, au-delà des délires médiatiques, il sera toujours bon de rappeler que 27 500 lits d'hôpitaux ont été fermés entre 2013 et 2019, et ce n'était que la suite du plan Hôpital 2007 de Bachelot qui en a fermé 40 000, 4 200 en 2018, 3 400 en 2019, sous Buzyn, presque 100 000 lits sur 25 ans. Juste pour rire, rappelons qu'il y a moins de personnel dans les hôpitaux en octobre qu'en janvier 2020. Ce que nous payons en France et dans le monde entier, c'est peut-être moins le bilan d'une épidémie qu'une politique absurde et mondiale de réduction des dépenses publiques qui va provoquer des morts évitables autour du Covid, mais aussi et surtout une bombe à retardement au niveau de la mortalité des autres maladies qu'on n'aura pas pu soigner à temps à cause du Covid et surtout à cause du manque de personnel.
Et nous allons maintenant passer à un autre sujet, et pour vous plonger dans l'ambiance du Chili 2020, écoutons le Chili 2019. Imaginez-vous sur une petite place de Santiago face à une église où un orchestre philharmonique en tenue est en train de jouer en plein air de la musique classique, et en 2019 il y avait énormément de manifestations et de manifestants dans les rues, et voici ce que brutalement, ou plutôt sympathiquement, au cours du concert, tout a changé. De tels chants ne sont pas anodins et ne sont assez fréquents au Chili dans les grandes manifestations, et El Pueblo Unido, la chanson de j'ai oublié son nom, de, en tout cas popularisé par le groupe Kuela Payung et une chanson de Sergio Ortega, est un chant des partisans qui a été de toutes les manifestations depuis les années 70. Alors pour parler du Chili de 2020, nous recevons avec nous Pauline Clech. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Alors parle un petit peu plus fort. Nous sommes actuellement ici en 2020 en France, mais tu as séjourné au Chili car tu es docteur en sociologie et tu as fait des missions au Chili sur place où tu as pu rencontrer la population chilienne bien entendu, puis aussi être au courant de toute l'actualité. Alors à ce titre, tu vas nous raconter plusieurs choses et évidemment nous allons parler du référendum qui a eu lieu il y a 15 jours, mais pour commencer, on va commencer par l'histoire un peu du mouvement contestataire qui a commencé en octobre dernier, en octobre 2019. Alors, tout a commencé de la hausse du ticket de métro.
Oui, absolument, ouais. Du coup, le mouvement social donc, qui a été appelé El Estallido Social, donc l'éclatement social, est né au Chili donc, il y a un peu plus d'un an. La date qui a été retenue officiellement, c'est le 18 octobre, donc ils appellent 18 O, pour 18 années zéro au Chili. Donc tout a commencé par l'augmentation du ticket de métro de 30 pesos, ce qui est pas énorme, mais ce qui fait monter le ticket de métro à Santiago à presque 1 euro, disons, le ticket de métro. Ticket de métro, alors comment ça a commencé en fait, donc ce sont des lycéens qui ont inauguré la contestation sociale en appelant les gens à passer en fraudant, donc ils ont appelé à l'évasion du métro, donc ils se sont installés au niveau des tourniquets et donc faisant passer les gens gratuitement pour pas payer le métro. Donc ça a commencé par les lycéens. C'est pas la première fois que les lycéens initient un mouvement social, puisqu'ils l'ont aussi fait en 2006. Ensuite, dans la foulée, les usagers ont suivi. Alors, faut savoir que le métro, bon, c'est pas complètement étonnant que ça est né par le métro. Le métro donc est cher au Chili, où le salaire minimum, alors j'ai pas les équivalents en euros, mais est de 250 000 pesos. Un ticket de métro à presque 1 euro vient vraiment gréver les budgets des ménages populaires et aussi des classes moyennes. Donc c'est cher. Qui plus est, pour prendre un métro, il y a très peu de lignes. Aux heures de pointe, c'est un métro super bondé, donc il y a un monde fou. Donc en plus, avec un sentiment d'être maltraité, que la dignité des individus est quand même mise en question. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont analysé ça un peu comme un symbole, quoi. C'est né dans cet espace-là. Et donc les lycéens ont initié le mouvement, suivi par des usagers. Alors, s'étant suivi ensuite, dans les quelques jours qui ont suivi, pas mal de dégradations. Donc, on en a eu écho. Il y a eu des stations de métro qui ont brûlé. Il y a eu des personnes qui en ont profité pour aller piller les supermarchés. Bon. Et ensuite, s'est installée en fait une mobilisation massive, pacifique et dans le temps long. Et qui a élargi les mots d'ordre. Donc, on est passé du mot d'ordre de 30 pesos, donc voilà, à, ben, en fait, c'était pas seulement 30 pesos supplémentaires, qui d'ailleurs, entre guillemets, au bout de quelques jours, Piñera, le président du Chili, est revenu sur ces 30 pesos, donc il a gelé le prix du ticket de métro, mais c'était trop tard, c'était comme une étincelle. Et donc, ensuite, on est passé du, c'était pas 30 pesos, en fait, c'est 30 ans de politique néolibérale. Donc, ensuite, se sont ajoutés beaucoup de revendications. Critiquant les inégalités, donc ça on pourra peut-être y revenir, donc ce pays un des plus inégalitaires du monde. Donc se sont installés sur le temps long des mobilisations, donc c'était des manifestations mais vraiment massives, comme jamais le Chili en avait vu depuis sans doute le retour à la démocratie. Et puis, donc réponse de Piñera sécuritaire, donc couvre-feu. Donc ces manifestations ont pris le relais de ce qu'on appelle des cacerolazo, qui est très répandu dans les... ça fait partie du répertoire politique en Amérique latine. Les gens sortent avec leurs casseroles et tapent dessus. Donc ça, à partir du couvre-feu, dans les quartiers populaires ou les quartiers de classe moyenne progressiste, les gens tapaient sur leurs casseroles le soir pour protester. Ils ont obtenu déjà quelques éléments, notamment...
Donc là, on parle d'une période qui est donc octobre. Par exemple, le 21 octobre, quelques jours après le début, c'était la place d'Italia qui était noire de monde, on trouve les vidéos sur Internet. Et les premiers progrès, les premiers lâchages du gouvernement Piñera, c'est quand même bien au bout de 2 ou 3 mois de manifestation.
Non, un tout petit peu avant. En fait, ils ont lâché assez vite des petites choses. Donc, les manifestants ont obtenu la tête, notamment du cousin de Piñera, qui était un ministre et qui était déjà là sous Pinochet. Ils ont demandé la tête de Piñera, mais bon. Et donc, Piñera, une des choses qu'il a assez vite lâché, en fait, au bout d'un mois, c'est le changement de constitution. Donc, sur lesquels on va revenir ensuite, voilà, qui est clé dans pour pouvoir initier beaucoup de changements. En fait, la constitution est clé. Donc ça, c'est au bout d'un mois, et ensuite les mobilisations se sont poursuivies. Ensuite, ça s'est un peu régulé, ça veut dire que les gens allaient manifester le vendredi soir, donc il y a eu le rendez-vous tous les vendredis soirs sur une des plus grandes places de Santiago, qui a été rebaptisée la place de la Dignité. Donc tous les vendredis soirs, il y avait rendez-vous à cet endroit-là, il y avait toujours les concerts de casseroles qui continuaient. Et puis évidemment, ça a été freiné par le Covid, donc ils ont été à peu près confinés en même temps que nous, en fait, au mois de mars.
Alors ces événements, tu le disais tout à l'heure, ont mobilisé du monde, mais mobilisé les esprits surtout. C'est-à-dire que finalement, les gens sont passés de protestataires à des militants et des gens qui sont mis à réfléchir, à exiger des choses.
Ouais, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que bon, moi la première, j'ai été surprise de ce mouvement et je pense que je ne suis pas du tout la seule. Enfin, j'aurais jamais mis ma main à couper... d'un tel mouvement social, parce qu'il y avait à la fois beaucoup de raisons objectives de cette contestation sociale et en même temps un fort sentiment de fatalisme, en fait, que de toute façon ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va y faire, on peut rien changer. Et les gens sont tenus par tout le monde a énormément de dettes, les dettes sur l'éducation, les dettes, les crédits à la consommation, enfin. À beaucoup d'heures aussi, les gens travaillent 45 heures, enfin c'est ça dans la loi, 45 heures par semaine. Et pourtant, là, on a assisté alors d'un côté à une politisation d'individus qui avaient certains jamais manifesté, donc à rebours d'une résignation qui était de mise jusqu'à là, avec la volonté donc s'attaquer aux injustices sociales. Et aussi donc quelque chose, un apprentissage un peu du collectif, quoi, avec des lectures qui sont passées d'un sentiment très, très individuel. Chacun vivait individuellement, psychologisant même un peu toutes ces difficultés sociales, en politisant ça, en disant en fait, c'est pas l'individu et les réponses seront collectives, c'est un problème collectif, les réponses seront collectives. Et notamment, il y a une phrase qui a été taguée dans les rues de Santiago qui dit « c'était pas une dépression donc individuelle, en fait c'était le capitalisme le problème ».
Et pourtant, le pouvoir s'est énormément protégé. Il y a eu l'armée, des camions blindés, des jets d'eau qui ont été excessivement irritants. On avait reçu des gens du militant parisien, mais chilien d'origine l'an dernier, qui nous ont expliqué les brûlures, les cloques qu'avaient les militants des premières lignes recevant l'eau des camions blindés.
Ouais. Et ouais, juste pour terminer juste sur la question précédente, sur la politisation, donc il y a une politisation du mouvement et il y a aussi en fait, ça rejoint aussi des mouvements sociaux qui s'étaient développés depuis 10 ans au Chili, donc qui ont aussi profité de ce moment-là pour se rassembler, donc les mouvements féministes, les mouvements contre les fonds de pension qui gèrent les retraites, le mouvement étudiant, les mouvements socio-environnementaux, etc. Donc il y a aussi tous ces mouvements-là qui se sont saisis de ça. Et donc, comme tu le dis, en effet, la réponse de Piñera a été d'emblée sécuritaire, extrêmement lourde, donc couvre-feu, état d'urgence, les militaires dans la rue. Donc pour ceux qui ont vécu la dictature militaire, ça leur a rappelé les souvenirs les plus sombres, quoi, de voir les militaires qui patrouillent dans la rue, ça leur a rappelé ça, et une réponse, une répression policière qui a été même l'ONU a dit que c'était démesuré, donc il y a eu des morts tués par les forces de l'ordre, énormément de personnes éborgnées, donc ce qui rappelle aussi ce qui peut se passer ailleurs, d'ailleurs, par ailleurs. Je n'ai pas les comptes actuels, mais il y a un an, au bout de 2 mois de mobilisation, on comptait 500 personnes qui avaient perdu un ou deux yeux. Il y a eu des viols, des violences sexuelles au sein des lieux des forces de l'ordre, des tortures, tout un répertoire de maintien de l'ordre, de répression qui existait déjà pendant la dictature.
Quoi. Ils n'avaient pas perdu la main depuis la dictature Pinochet, quoi, c'est ça.
À croire qu'il y avait une transmission, ouais.
Et tout ça dans un climat de méfiance. Jean-Marc veut nous faire un petit commentaire.
Oui, il faut dire qu'eux n'avaient pas perdu leurs droits sociaux. Les flics au Chili sont les seuls à les avoir gardés après Pinochet.
C'était même protégé par énormément de règles budgétaires pour que la police ne perde jamais ses avantages sociaux. Et tout ça, ça a créé une méfiance vis-à-vis de la classe politique. Et la question qu'on peut se poser de France, mais y a-t-il vraiment une direction à ce mouvement de protestation ?
Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en effet, il y a même une partie des revenus du cuivre qui est une des grosses mannes du Chili qui va directement à l'armée. Ça, c'est aussi inscrit dans la Constitution. Une direction à ce mouvement, pas vraiment, parce que du coup, c'est vraiment surgi de manière... spontanée, donc avec quand même différents groupes sociaux déjà organisés, mais une méfiance profonde dans tout ce qui est politique institutionnelle, donc une volonté de ne pas être récupéré, que ce ne soit pas un mouvement récupéré. Donc non, il n'y a pas de direction, tout est possible. Et peut-être qu'on le redira justement par rapport à l'enjeu actuellement de constitution. Est-ce qu'il va y avoir une représentation de tous ces gens lambda qui ont défilé dans la rue ? Rien n'est moins sûr, enfin tout est possible.
Alors dans quelques instants, on va écouter des chansons montrant cette unité populaire et ceux de la résistance à la dictature. On écoutera Victor Jara. En fin d'émission, on écoutera un groupe de rock des années 80, Los Prisioneros. Mais tu voulais peut-être dire un mot aussi sur tous ces chanteurs contemporains et ces chants qui ont accompagné ces musiques, qui ont accompagné le mouvement.
Ouais, bah il y a eu, c'était émouvant, donc ce qu'on a entendu, bah là, donc ce que vous avez passé tout à l'heure, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, on oublie souvent qu'il vient du Chili en fait, qu'il a été écrit pendant la période d'Allende. Donc il y a eu ce thème, il y a celui qu'on va entendre juste après, El Derecho de Vivir en Paz de Victor Jara, qui a été écrit pour critiquer l'intervention américaine au Vietnam. Et puis qui a été repris par les foules en chœur dans les rues de Santiago. Il y a Los Prisioneros qui était donc un groupe très connu des années 80, qui est toujours adoré par toute la jeunesse et les moins jeunes de gauche. Et puis aussi des rappeurs contemporains, notamment la rappeuse Anna Tijoux, qui a fait un titre très écouté, Cacerolazo, justement sur cette technique de frapper les casseroles le soir.
Et donc on revient aux années 70 et à Victor Jara qui chante donc la dignité de vivre.
El derecho de vivir, poeta. El derecho de vivir.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de TAC.
Et on poursuit notre interview de Pauline Clèche, qui est donc docteur en sociologie et qui connaît bien la question chilienne. Et nous avons parlé du mouvement contestataire de l'an dernier, 2019, qu'on a vu s'être arrêté globalement avec le Covid et les 6 mois de confinement qui ont suivi. On va essayer maintenant de parler de la société chilienne et des inégalités abyssales en lien avec le néolibéralisme qui a et la norme au Chili. Et une première question, c'est quelles sont les inégalités ? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une des sociétés les plus inégalitaires du monde ?
Alors, on dit que c'est une des sociétés les plus inégalitaires du monde après redistribution. Donc, tous les calculs des économistes avant-après redistribution, ne serait-ce que parce qu'au Chili, il n'y a pas de redistribution, ou très peu, ou vraiment très à la marge, envers les populations les plus précaires. Et sinon, beaucoup de... tout est marchandise, il y a une marchandisation généralisée, donc que ce soit de la santé, de l'éducation, des retraites, etc. Enfin, ce qui du coup génère des inégalités très fortes entre individus. Et du coup, donc, si je fais une transition avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, tout l'enjeu du changement de constitution justement est lié à tout ça. Parce que la constitution grave dans le marbre, donc constitution, il faut rappeler, qui a été rédigée donc sous Pinochet en 1981, donc sous Pinochet en pleine dictature, par son éminence grise Jaime Guzmán, qui a voulu graver dans le marbre tous les principes, certains principes autoritaires, même si certains ont été contestés, et surtout tous les principes du néolibéralisme, pour que si jamais la dictature s'arrête, tout ça continue, surtout que tout ça soit bien verrouillé, bien tenu. Et donc pourquoi c'est une société si inégalitaire ? Bah parce que en fait, tous les principes néolibéraux donc, sont gravés dans le marbre et sont très difficilement changeables.
Alors, ils sont gravés dans le marbre, pourtant il y a eu 40 changements de constitution, mais pourtant les grands principes sont restés. Et est-ce qu'on peut donner quelques exemples qui institutionnalisent le néolibéralisme dans la constitution ?
Oui, bah par exemple, il y a certains biens que d'autres pays ont pu sortir de la logique marchande qui sont inscrits dans la constitution chilienne, comme étant des biens marchands comme les autres. Donc c'est notamment le cas de l'éducation, le cas de l'eau. Alors, comme tu l'as rappelé, il y a eu en effet 40 réformes, et c'est vraiment des réformes super à la marge, et qui ne peuvent pas changer le fond du problème, parce qu'il y a toute une... pour pouvoir changer la constitution, il faut une majorité de 2/3 des chambres, et en l'état actuel des rapports de force, c'est impossible à avoir. Donc à chaque fois, les réformes qui ont été obtenues, c'est en gros des réformes qui ne dérangent pas les intérêts des individus possédants chiliens. Donc par exemple, dans les biens qui sont inscrits comme marchands, donc il y a l'eau, avec une réforme de l'eau qui a été proposée, qui a été là déboutée en janvier dernier. Donc avec l'idée de la sortir comme bien marchand, elle a été déboutée, rejetée par le Sénat parce que il y avait, j'ai plus les chiffres, mais il manquait donc les, enfin il manquait, on n'arrivait pas à la majorité des 2/3. Pareil pour la gratuité de l'éducation. Donc l'éducation est un bien marchand qui rapporte beaucoup d'argent à tous ceux qui gèrent ça. La présidente Bachelet, qui était la présidente socialiste, a réussi quand même à introduire l'idée de gratuité dans le supérieur, donc à l'université, mais pour montrer que, en fait, c'est toujours des réformes marginales qui ne mettent pas en question le cœur du modèle, c'est que du coup, en fait, l'État va financer toutes ces entreprises d'éducation privée. Donc ça ne met absolument pas en cause le système que certains possèdent et se font beaucoup d'argent sur l'éducation supérieure. Et c'est eux d'ailleurs qui fixent les prix. Donc l'État doit donner de l'argent à ces... Et donc, avec ça, les universités ont accepté la gratuité du système. Donc c'est gratuit pour les étudiants, mais le système lui-même demeure.
Et en fait, quand tu dis système, c'est que l'État chilien, par rapport au monde de l'entreprise, fonctionne vraiment comme le pur néolibéralisme. Un État petit face à une entreprise forte et des entreprises qui sont tenues par une oligarchie.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bah le Chili. On dit souvent que ça a été le laboratoire du néolibéralisme parce que donc avant Reagan aux États-Unis, avant Thatcher en Grande-Bretagne, donc Pinochet arrive en 73 au Chili, coup d'État. Au début, il n'était pas forcément un turiféraire du néolibéralisme, mais il y avait tout un tas de jeunes économistes qui avaient étudié avec Milton Friedman à Chicago, qui étaient allés se former auprès de Milton Friedman et qui sont revenus au Chili et qui ont fait du lobby, du forcing pour imposer ce modèle-là auprès de Pinochet. Et du coup, donc ce modèle se poursuit depuis, et les chercheurs de là-bas parlent de modèle néolibéral mature, donc un système bien ancré depuis 1973 au Chili, qui se caractérise non pas par une absence d'État, l'État est là, Dès qu'il y a un problème, on se tourne vers l'État, sauf que l'État a très peu de moyens, puisqu'il y a très peu d'impôts, très peu de manne, enfin très peu d'argent rentre dans ses caisses, et par ailleurs, il est surtout là pour assurer les intérêts d'une petite élite économique très puissante, très argentée, et qui décide de tout, enfin... pour montrer un peu cette idée d'oligarchie et de petit monde économique, il y a l'exemple qu'on m'a raconté au Chili, que s'étaient mis d'accord tous ceux qui possédaient le papier toilette là-bas pour faire un monopole, pour se mettre d'accord sur le prix et le monter. Voilà, donc cet exemple un peu qui montre cette histoire d'oligarchie et de monopole.
C'est un peu la société rêvée par Emmanuel Macron, hein.
On en a peur. Alors bon, société rêvée... Société rêvée, mais il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, 2006, 2011, d'étudiants, contre les fonds de pension, d'énormément de mouvements féministes, environnementaux, la défense des peuples, et pourtant une grande défiance, un grand fantasme, c'est le mot que tu as employé tout à l'heure, et cette étincelle impensable, elle est arrivée avec ces mouvements de 2019 et cette constitution, parce que la grande nouvelle, c'est ce référendum d'il y a 15 jours.
Oui, donc ça qui a été lâché environ un mois après le début de la contestation. Donc comme j'ai commencé à le dire, en fait, toute volonté de réforme, justement de diminuer ces inégalités abyssales entre catégories sociales, faut savoir qu'il y a des individus qui ont des niveaux de vie, des salaires qui sont l'équivalent de l'Europe, des États-Unis et d'autres vraiment dignes d'un pays du tiers-monde. C'est ça le Chili, ces inégalités si fortes. Et donc, dès qu'il y avait l'idée d'une réforme, par exemple sortir l'eau des biens marchands, réformer l'éducation, il y avait la Constitution qui disait que c'est anticonstitutionnel puisque la propriété privée de l'eau est garantie par la Constitution, on va pas changer, c'est anticonstitutionnel, surtout si on n'arrive pas à atteindre le quorum des deux tiers. Donc c'est ça qui est venu, du coup l'enjeu de changer cette Constitution, c'est de pouvoir changer de modèle politique, de modèle qui est hérité de la dictature.
Alors, on rappelle que Pinochet est resté sénateur à vie, par exemple. Hein, donc là, on imagine ce qu'est le Sénat au Chili, vu que les deux tiers n'ont pas pu être atteints. Mais le chiffre qui veut un changement de constitution, c'était les fameux 78% des Chiliens veulent une nouvelle constitution, et pas n'importe laquelle. C'est ça que tu vas nous expliquer. Ce mouvement constitutionnel est quasiment inédit.
Ouais, et sur les sénateurs à vie, juste pour revenir là-dessus, oui, ça a été supprimé en 2005, par exemple. Donc c'est quand même assez récent, par une modification de la Constitution. Oui, donc les Chiliens ont été appelés, donc c'était le 25 octobre, à voter. Donc ce référendum aurait dû se tenir en avril, donc ça a été décalé pour cause de Covid. Donc il y avait des craintes aussi, le Covid, dans quelle mesure est-ce que ça allait affecter la participation, etc. Participation, alors avant de rentrer dans les résultats, participation de 51%, alors ce qui est super bien pour le Chili, aujourd'hui en tout cas, donc avec des queues incroyables, enfin voilà, c'était, voilà, donc un bon taux de participation et des résultats... j'ai même pas le mot pour le dire... massif, donc en faveur de changer la constitution. Donc les Chiliens étaient appelés à répondre à deux questions. Une première question, est-ce que vous voulez changer la constitution? Oui, non. 78% ont choisi de la changer. Et une deuxième question, comment voulez-vous qu'on la change? Est-ce que vous voulez que ce soit les politiciens, enfin moitié de politiciens professionnels et moitié de citoyens, c'était la solution mixte, ou voulez-vous que ce soit une assemblée constituante composée de citoyens? Et 79% des Chiliens ont voté pour que ce soit une assemblée constituante, ce qui montre aussi la méfiance vis-à-vis de la classe politique. Alors, ce que montre ce vote, c'est que, bon, derrière, il y a un vote de classe, évidemment. Donc, 78% de moyenne dans tout le Chili. Seules trois communes ont voté contre le changement de la constitution. Les trois communes les plus riches du Chili, qui sont donc dans la région de Santiago. Sinon, donc les quartiers populaires, eux, ont voté plus de 80% pour le changement de constitution.
C'est sans précédent, hein, comme on dit dans l'histoire. Imaginez un peuple qui, sans révolution, va peut-être tout changer. Il l'avait fait un peu aussi avec la fin de Pinochet, vu que c'était un autre référendum qui s'est passé sans conflit, qui a mis la fin à la dictature. Alors tu dis que c'est un vote de classe, et donc maintenant, y a un enjeu, c'est est-ce que cette constitution va avoir, va bien se dérouler, est-ce qu'elle va être acceptée, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur ce déroulé? Alors ça va durer quand même toute l'année 2020, le processus électoral, la mise en place de l'Assemblée constituante, ça sera qu'en 2021 qu'elle va se réunir, je crois. Alors quelles sont les incertitudes et quels sont les bonheurs à attendre de tous ces changements?
Ouais, alors là, le processus donc qui va se passer, donc c'est que maintenant vont pouvoir se déclarer candidats jusqu'en janvier les citoyens, donc les gens qui veulent faire partie de l'Assemblée constituante. Il faut savoir que c'est interdit de faire partie de l'Assemblée constituante si on a une charge politique, donc y compris les fonctionnaires. Enfin, donc les élus doivent suspendre leur mandat, les fonctionnaires doivent suspendre aussi leur travail pendant toute la durée du processus. Les représentants du patronat, pareil. Enfin, voilà. Et ensuite, il y a une impossibilité d'être élu sur quelques charges politiques que ce soit pendant un an. Donc, jusqu'en janvier, ils doivent se déclarer candidats. Et ensuite, à nouveau, les Chiliens doivent voter en avril. Il y a beaucoup d'élections, d'ailleurs, en avril, mais donc, notamment celle-là, pour élire qui vont être les constituants. Ensuite, ils ont au maximum un an pour rédiger cette nouvelle constitution. Ils doivent se mettre d'accord. Chacune des propositions va être soumise au vote et il faut obtenir les deux tiers au sein de l'Assemblée constituante en faveur pour pouvoir faire passer. Donc, il y a des risques de blocage. Tout va dépendre de qui est élu, bien sûr. Ensuite, Piñera, le président, va de nouveau convoquer un plébiscite pour que les citoyens, les Chiliens, approuvent ou non la Constitution. Donc ça, c'est pour les étapes. Donc oui, ça va durer. Donc à partir d'avril, ça va durer en un an avant le changement de Constitution. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et là, évidemment, du coup, tout l'enjeu, c'est de savoir qui vont être ces fameux constituants. Et là, tous les espoirs sont permis, toutes les craintes aussi, parce que, en fait, là, ce qu'on voit se mettre en place ces jours-ci, c'est pas un débat national comme ce qui s'est tenu avec, notamment, il y avait des assemblées citoyennes locales qui se tenaient, etc. Là, c'est un peu une course, une sorte de compétition électorale, en fait, assez traditionnelle. Donc, le risque, c'est que ça favorise les partis politiques traditionnels ou alors des stars. Donc, il y a des gens de la télé qui sont plébiscités pour faire partie ou alors des experts. Donc, c'est les fameux experts à la Macron, là, pour le coup. Donc, des gens qui connaîtraient certains sujets qui serait plus légitime de faire partie de cette assemblée constituante. Donc, quid des indépendants? Comment on définit les indépendants? Il y aura des faux indépendants, il y a les fils de Piñera, visiblement, qui sont déjà intéressés pour être indépendants, faire partie du président, pour faire partie de l'assemblée constituante. Voilà, là, c'est vraiment l'incertitude. Comment est-ce que la contestation va pouvoir s'incarner dans certains individus qui vont être élus? Sans que ce soit une compétition électorale habituelle qui, alors, soit qu'aurait deux conséquences, soit les gens rentrent dans leur fatalisme, soit ça repart, quoi. En tout cas, ce que les analystes politistes ou notamment un grand avocat constitutionnaliste ça fait un an qu'il donne des cours de droit constitutionnel aux Chiliens, y compris le matin en matinale, ce que donc tous ces spécialistes disent, c'est que le mouvement populaire doit continuer à faire pression, sinon pour transformer l'ordre social et politique, parce que la porte s'est entrouverte pour changer les choses, et vraiment, enfin, la porte s'est entrouverte parce qu'il y a une pression populaire, c'est pas du tout parce que les députés ont décidé ou quoi que ce soit. Donc s'ils veulent pas que la porte se referme, il faut une pression populaire.
Parce que les députés ont encore la possibilité de refermer la porte, vu qu'il faut qu'il y en ait deux tiers de l'Assemblée qui valident le test constitutionnel en plus du référendum. Ça fait encore beaucoup d'étapes face à eux. On espère que, par rapport à la dernière fois où ça s'est passé en France, où 100 personnes tirées au sort devaient parler d'écologie, Je pense que Macron a dû afficher ça dans ses toilettes en rigolant tous les soirs depuis. Eh bien, on va espérer que tout se passe le mieux possible pour le Chili et qu'on aura un exemple à suivre peut-être de changements et de nouveaux types de constitutions à mettre en œuvre dans le reste du monde. Merci. Alors pour terminer, on va faire un petit retour aux années 70 à nouveau, parce que les Wampas n'ont jamais changé depuis toujours, et les Wampas nous parlaient à l'époque d'un titre qui s'appelait, si je traduis, Ne croyez jamais un punk qui un jour se met à jouer d'électro. Ils vont écouter, bah évidemment, Pinochet était un dictateur, mais Giscard était son complice, les Wampas. Vous écoutez bien 106.3, Fréquence Paris Pluriel, l'émission des chômeurs et des précaires, aujourd'hui animée par une équipe d'attaque et de militants du PIAF. Nous avons reçu Pauline Clash qui nous a parlé du Chili, et maintenant, dans une logique de transition entre l'Amérique du Sud et la France, eh bien, El Bolsonaro unido jamás será vencido, Gael.
Oui, on va rester en Amérique du Sud en fait, mais on va aller de l'autre côté de la cordillère des Andes et pour parler du Mercosur. Le Mercosur, c'est le marché commun sud-américain qui regroupe le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, plus quelques pays associés. Et ce lundi 9 novembre, les ministres du commerce des pays de l'Union européenne devaient enclencher le processus de ratification d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Finalement, aucun vote n'a eu lieu sur ce sujet, alors même que la présidence allemande de l'Union européenne en avait fait une priorité. Alors je vais vous raconter comment c'est arrivé. Donc l'accord Union européenne-Mercosur, c'est un accord de libre-échange qui est négocié depuis plus de 20 ans, et l'objectif de l'accord est simple. Pour l'Union européenne, il s'agit d'exporter des voitures et des services, et pour le Mercosur, il s'agit d'exporter toujours plus de soja et de viande vers l'Europe. Alors un mot sur le soja, c'est vraiment un produit emblématique de l'agro-industrie déchaînée. En Union européenne, on importe du soja pour nourrir des vaches hyper productives parquées dans d'immenses hangars pour surproduire du lait. Et en Amérique du Sud, on déforeste pour produire du soja arrosé de nappes de pesticides. Alors, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on imagine le monde de demain. Mais heureusement, en France, on a un président écolo. En août 2019, en marge du sommet du G7 à Biarritz, Manu Le Vert a dit que ça ne se passerait pas comme ça, que la France ne pouvait pas soutenir l'accord Union européenne-Mercosur en l'état, compte tenu des politiques environnementales des pays du Mercosur, qui vont clairement à l'encontre des objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Ce à quoi Bolsonaro a répondu « Ouais, mais toi, tu baisses ta grand-mère », ce qui ne faisait pas vraiment avancer le débat, il faut le dire. Alors après ça, le gouvernement a mandaté une commission d'experts indépendants, présidée par un économiste de l'environnement, Stéphane Ambec. Et cette commission était chargée d'analyser l'impact du projet d'accord sur l'environnement et sa compatibilité avec nos normes environnementales et sanitaires pour ce qui concerne les produits qu'on consomme en Europe. Le rapport a été remis au gouvernement en septembre. Il était assez critique et il dit notamment que l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur contribuerait à augmenter la déforestation de 5 à 25% par an dans les 10 prochaines années. Le gouvernement a aussitôt publié, le 18 septembre, un communiqué très ferme sur ce sujet, qui concluait, je cite, « que ces éléments confortent la position de la France de s'opposer au projet d'accord d'association en l'état ». Mais le 22 septembre, Franck Riester, notre ministre du Commerce extérieur, a indiqué, je cite, « ne pas vouloir bloquer toute démarche, ni jeter à la poubelle 10 ans de travail ». Donc la fermeté aura duré 4 jours. Plus précisément, le gouvernement a formulé 3 exigences pour poursuivre le processus de finalisation de l'accord. Premièrement, que ça ne provoque pas d'augmentation de la déforestation. Deuxièmement, que les pays du Mercosur respectent leurs engagements au titre de l'accord de Paris. Et troisièmement, que les produits agroalimentaires importés respectent les normes sanitaires et environnementales de l'Union européenne. Alors en fait, ces exigences, elles sont tout à fait louables, mais elles sont insuffisantes, car elles sont trop imprécises et elles ne changent pas l'esprit général de l'accord. Tout l'accord, en fait, est conçu pour exporter plus de voitures et de machines-outils et pour importer plus de viande, de soja et d'éthanol. Donc cet accord est porteur, par sa logique même, de déforestation et de hausse des émissions de gaz à effet de serre du fait de l'accroissement du trafic commercial. Donc si on ajoute juste une annexe avec les engagements demandés par la France, ça n'aura aucune portée. Ces trois exigences sont insuffisantes aussi parce qu'elles ne couvrent pas d'autres enjeux majeurs de l'accord, comme l'impact de l'accord sur l'emploi, sur les normes sociales, sur les services publics, sur les droits humains. Donc la question se pose, est-ce que Macron veut vraiment changer cet accord ou bien est-ce que c'est juste de la com pour les Français ? Alors en juin dernier, devant la Convention citoyenne pour le climat, il avait indiqué, je cite, « avoir stoppé net les négociations avec le Mercosur ». Et c'était faux en fait, puisque les négociations se sont poursuivies fin 2019 et début 2020, y compris pendant le confinement. Et le 6 juillet, la Commission européenne disait qu'elle avait terminé le nettoyage juridique du texte et qu'elle avait débuté la phase de traduction. Donc non, Macron n'avait pas stoppé les négociations, elles étaient juste terminées. Et en fait, à Paris, Macron est vent debout contre l'accord Union européenne-Mercosur, mais à Bruxelles, il ne prend aucune initiative pour le bloquer. Et un État membre de l'Union européenne, en fait, ne peut pas bloquer seul ce genre d'accord, puisque ça se vote à la majorité qualifiée au Conseil européen. Donc il faudrait que Macron constitue une minorité de blocage au Conseil. Alors heureusement, le contexte politique semble de moins en moins favorable à cet accord. Selon un sondage publié le 10 septembre, en France, 78% des personnes interrogées veulent l'abandon de cet accord. Et on n'est pas les seuls, puisque le même sondage a été fait en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, et les résultats étaient similaires dans ces pays. Plusieurs autres États ont émis des réserves ou des oppositions, l'Irlande, l'Autriche, le Luxembourg, ainsi que les parlementaires hollandais et wallons. Et le 6 octobre, une petite majorité de députés européens s'est prononcée contre la ratification de l'accord, en l'état, de l'accord de libre-échange. Alors le Conseil européen de lundi devait lancer le processus de ratification et finalement donc il a reporté cette décision à cause de ses nombreuses réticences. Et pourtant l'Allemagne, qui préside l'Union européenne depuis le 1er juillet, avait fait de la finalisation et de la ratification de l'accord une priorité de sa présidence. Donc le fait qu'elle y renonce, c'est déjà une première victoire. Mais du côté français, donc il est temps que Macron fasse à Bruxelles ce qu'il a dit à Paris. C'est-à-dire que pour stopper net cet accord, eh bien, il faut qu'il trouve des alliés et qu'il construise réellement une minorité de blocage au Conseil européen. Et c'est possible puisque d'autres États sont réticents. Alors nous, les citoyens, il faut qu'on l'aide à tenir bon. Pour ça, le collectif Stop TAFTA a mis en place un outil d'interpellation en ligne pour envoyer des messages à destination de Riester et de Macron. Et entre le 2 et le 9 novembre, donc en une seule semaine, il y a déjà eu 100 000 messages qui ont été envoyés à Macron et son gouvernement par ce moyen. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est très simple à faire. Vous allez sur le site web collectifstoptafta.org et en trois clics, c'est fait. Il y a une autre action en cours, c'est de faire voter par les collectivités territoriales une résolution qui dise non à l'accord UE-Mercosur, oui à la relocalisation. C'est une action qui avait bien marché en 2015-2016, contre les accords avec les États-Unis et le Canada. Plus de 2000 collectivités territoriales européennes s'étaient engagées. Pour l'instant, l'action vient de commencer. Donc, on a une seule ville en France qui l'a faite, c'est la ville de Grenoble, qui a voté une résolution le 2 novembre et qui devrait réussir à entraîner d'autres villes. Et puis, l'Amérique latine se mobilise de son côté. Des militants de là-bas vont produire une déclaration qui demande à l'Europe d'arrêter le processus de ratification. Donc les ALE, les accords de libre-échange, c'est pas une fatalité. Peut-être que cette fois-ci, on va gagner.
Oui, et pour reprendre Jean-Marc qui vient de nous quitter, on peut être Mercosur du contraire, que ça soit pas une fatalité. L'émission se termine. Juste un petit mot pour rappeler qu'il y a eu plusieurs lois qui ont été votées ou qui sont en train d'être votées par le Parlement à toute vitesse. Renseignez-vous, les médias en parlent très peu. Le 17 novembre, il y a donc cette loi sur la sécurité globale. Il y a eu lundi dernier une loi sur l'université qui réforme profondément l'université en introduisant entre autres un délit d'entrave pour toute personne entrant sur un campus pour empêcher le bon ordre du fonctionnement de l'université, avec des peines de prison massives pour ce genre d'actions qui ont été pourtant le point de départ de mai 68. On peut imaginer qu'on n'est peut-être pas en dictature, mais sommes-nous en démocratie? C'est une question. Et nous terminons là, sur cette remarque, en remerciant évidemment tous nos invités. Pauline Clèche, qui a fait pour son intervention pour le Chili, merci. Merci Gaël pour ta chronique, Jean-Marc pour les chroniques d'actualité, Claude à la technique. Et on se quitte en écoutant, pour un retour sur le Chili, on va écouter le groupe Los Prisioneros, qui est un groupe de la scène rock des années 80. Est-ce qu'on écoute la version de la chanson qu'on va écouter de l'époque? C'est à placer entre Téléphone et Indochine, avec un son très synthé. Ils ont beaucoup évolué, évidemment, je vous rassure, dans ce qu'on va écouter à l'instant. Mais 40 ans plus tard, ils sont toujours là, adorés des jeunes et des moins jeunes, avec une chanson emblématique qu'ils reprennent à chaque concert, La danse de ceux qui restent, en espagnol, El baile de los que sobran.
Otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad.